Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Point de vue. Nous sommes heureux de vous retrouver et pour ce troisième épisode de la saison, nous sommes en compagnie d'un ex-futur ancien, peut-être bientôt, on ne sait plus trop, entraîneur et directeur sportif de Fribourg-Gotteron. Vous l'aurez reconnu, Serge Pelletier. Salut Serge.
Bonjour François, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Je suis François Rossier et aujourd'hui je suis aussi accompagné par Patricia Morand. Salut Pam.
Salut François, salut Serge. Ça fait plaisir de te revoir d'ailleurs.
J'allais dire, on se retrouve comme au bon vieux temps.
Effectivement, ouais.
Pas mal de souvenirs qu'on va partager avec toi, Serge, en lien évidemment avec les dragons. Peut-être quelques un peu plus mauvais souvenirs, mais il y en aura plus de bons que de mauvais. Hein, avec le temps, en général, on est sélectif.
Tant mieux.
On va évidemment revenir sur ces différentes périodes qui ont jalonné ta longue carrière derrière le banc et dans les bureaux. Mais avant cela, parlons de l'actualité de Gotteron. Patricia, 7 matchs. 5 victoires, une place de leader. Difficile de demander beaucoup plus à ces dragons en ce début de saison.
Oui, plutôt difficile, effectivement. Bon, la place de leader, ça reste anecdotique à ce stade du championnat. Mais le plus important, c'est le très bon départ. Et puis, je pense aussi les matchs solides, vraiment très solides, face à Genève, à Zurich, et puis contre Bien-Aimé l'autre soir.
Serge, t'es surpris de ce départ de Gotteron quand même, ou tu les voyais bien partir?
Ben oui, non. Disons que Gotteron a une excellente équipe cette saison. Je crois que également Gotteron a toujours l'habitude de bien débuter ses championnats. Donc les voir comme ça dans le haut du classement après 6-7 matchs, je crois que effectivement, je m'attendais, oui, à un départ semblable.
L'habitude de bien débuter, oui, mais quand ça débute mal, parce que ça arrive aussi, c'est très difficile, très vite.
Apparemment.
Qu'est-ce que tu as bien aimé, Pam, ce début de saison sur les matchs que tu as vus?
Eh ben, la renaissance un petit peu de Marchand, puisque c'est vraiment dans l'actu. La solidité défensive à Zurich, c'était juste incroyable par rapport à certaines fois. Le retour de Béra après sa blessure, l'éclosion, enfin, on dira, de Sørensen, parce que l'année passée, il a été très longtemps décevant. Et puis...
Très longtemps blessé aussi, notamment en début de saison.
Oui, parce qu'il a fait une petite bêtise en Champions Hockey League, c'est ça.
Il défendait un coéquipier, diront les optimistes et les positifs, et les autres diront qu'il aurait pu s'en passer, effectivement. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Serge, on parle beaucoup aussi des triplettes que Dubé a trouvées. Ça, c'est important pour un entraîneur de chercher durant l'été la formation idéale. Toi, tu fonctionnais, si j'ai bonne mémoire, un peu avec des doublettes et tu cherchais un peu après le complément idéal. Qu'est-ce que tu penses de ces lignes fribourgeoises?
Oui, effectivement, je fonctionnais par tandem. J'identifiais toujours deux joueurs qui avaient une certaine chimie ensemble. C'est souvent difficile de trouver le troisième compère qui va se joindre à eux. Mais jusqu'à présent, les trios justement de Gotteron fonctionnent bien. Donc, Christian Dubé a bien deviné justement de mettre ces joueurs-là ensemble, parce que pour l'instant, on a un peu de la production également de la part de tous les trios, ce qui est très intéressant pour une équipe. Ça donne justement, ça te permet justement de gagner des matchs également à l'extérieur et non seulement à domicile lorsque tu as le dernier changement si tes quatre trios fonctionnent bien.
Un point négatif ou un peu moins... j'allais dire un point noir, mais je sais pas, un point gris. Alors, c'est le power play. Comment on peut entraîner ça, améliorer ça? D'habitude, c'était vraiment une force de Gotteron. Là, on se disait en plus, durant l'été, chouette, il y a un deuxième jeu de puissance qui a l'air de fonctionner, qui a l'air productif. Et puis là, il y a eu plusieurs occasions un peu gâchées, ou en tout cas, où Gotteron n'a pas su faire la différence.
Bon, comme avait dit Patricia au départ, je veux dire, avec des points d'interrogation chez Fribourg, on avait Sørensen le retour, Béra après la blessure, Marchand après la dernière saison. Donc, tous ces points-là ont été positifs. On attendait le power play
Grand comme une maison.
Grand comme une maison, mais effectivement, c'est pas nécessairement arrivé. Mais je pense que c'est une question de temps. Il faut aussi dire que plus ou moins le positionnement des joueurs et la structure du power play de la saison passée aussi est plus ou moins semblable. Donc, les autres équipes ont également eu le temps de se préparer justement pour contrer le power play de Gauthieron. Et puis, il va falloir qu'on le travaille encore.
Oui, il manque quand même un élément capital par rapport à la saison passée au niveau du power play. Je pense à David Dernier et c'est pas rien.
Oui, je pense pas seulement sur le power play.
mais je te demandais comment ça peut s'entraîner. C'est beaucoup de vidéos, c'est quand même une partie de feeling, c'est des petits jeux qu'on répète à l'entraînement. En même temps, ben voilà, c'est toujours difficile à l'entraînement d'avoir la même intensité qu'en match. Et puis, il y a toujours cet équilibre à trouver entre être patient, trouver le bon mouvement, le bon joueur libre, et puis quand même tirer au but. C'est ce qu'on recherche, et des fois, ça tourne beaucoup en rond.
Ouais, l'important, c'est créer des automatismes. Je pense que créer des automatismes en fonction où se trouve le puck, si le puck est plutôt en haut, si le puck est plutôt à hauteur des, on dit les oreilles, les hash marks en anglais, ou si le puck se retrouve plutôt sur alentour de la ligne des buts, je pense qu'il y a des automatismes, des jeux qui doivent se synchroniser un peu mieux. Et puis à partir de ça, je crois que le power play va pouvoir justement redevenir dominant. Ensuite, il y a bien entendu l'analyse des box play adversaires, où c'est qu'on peut justement exploiter certaines faiblesses qui peuvent aider le power play à mieux fonctionner.
Pam, le week-end à venir, Zug, Langnau, un peu plus loin, ça sera Lausanne. Comment tu vois ces prochains matchs?
Difficile. Zug, ça sera un nouveau bon test. Hein. Il y aura eu une belle série
De grosses équipes,
et puis après, Langnau, comme on dit, c'est toujours difficile d'aller jouer à Langnau auprès de l'Elfis.
C'est plus difficile dans la tête que dans le
voilà, c'est
sur
ça,
la
c'est
glace,
mental,
parce que Langnau, ils ont quand même de la peine hein, cette saison.
Oui, effectivement, mais je pense que le test contre Zug, ça sera super intéressant, et puis après, Fribourg aura l'obligation d'engranger 3 points à Langnau, et puis pour avoir l'avenir avec sérénité, on dit.
On peut dire ça.
Ouais, ça aide quand même les bons départs. Après, on se pose moins de questions, on a moins de stress lié aux résultats pour l'entraîneur que tu as été. Et connaissant bien les joueurs, on peut imaginer que se retrouver assez rapidement vers le haut du classement, ça simplifie la vie de tout le monde.
Non, ça c'est clair. Disons que les points déjà engrangés, c'est des bonus, c'est des points qui sont là. Et puis, c'est important pour le classement. Deux, la victoire t'amène toujours un effet, justement, de confiance additionnelle. Donc, ton équipe se présente à la patinoire, elle est contente de venir s'entraîner. Tu abordes les matchs avec beaucoup plus de confiance. Alors, et ça te permet, bien entendu, d'avoir de la constance. Et puis, la constance, c'est justement ça qui est important dans l'hockey sur glace, parce qu'une équipe qui n'a pas de constance, c'est une équipe qui n'est pas capable de finir, de terminer. Et puis, si Fribourg continue justement à avoir cette constance-là, on peut s'attendre à grande chose d'ici la fin de la saison.
Ça te fait rêver, ça?
Pourquoi pas?
Bon, tout va bien à Gauthieron. On en parle des fois plus longuement. Là, on va profiter de la présence de Serge pour s'intéresser à un autre point chaud de l'actualité. C'est ce poste de directeur sportif. Rapidement, ton nom est apparu dans la liste des candidats et nos auditeurs nous ont envoyé des questions en lien, évidemment, avec cette actualité. Alain Babs qui dit « Alors, bientôt un retour à Fribourg ». Philippe Clément qui dit « Alors, ce poste de GM ». Arnaud qui nous demande, directeur sportif à Fribourg, c'est possible? Alors, qu'est-ce que tu réponds à ces gens?
Disons que Fribourg-Gauthieron a toujours représenté un club important pour moi. Et puis, bien entendu, si les dirigeants me donnent un coup de téléphone, je vais les écouter avec grand plaisir.
Donc, tu es candidat?
On peut dire ça.
On peut dire ça. Qu'est-ce qui te plaît? Enfin, voilà, Fribourg, tu connais, tu es déjà venu au début des années 2000, tu es revenu comme entraîneur et directeur sportif entre 2006 et 2011. Comment tu verrais un troisième retour ou qu'est-ce qui te motiverait là-dedans?
Disons, c'est Pas nécessairement les... Oui, d'un côté, je veux dire, le fait que je connais le club, que je suis déjà passé, puis etc., c'est pas nécessairement ça qui est, comment on dit, la grande dominante dans... dans le job du directeur sportif pour le futur. Qu'est-ce qui est surtout important, je veux dire, c'est qu'est-ce que j'ai accumulé plutôt comme expérience puis comme vécu dans les dernières années et puis qu'est-ce que j'ai pu justement travailler et puis etc. pour, je veux dire, ambitionner à ce poste, si je peux m'exprimer ici. Et puis l'autre truc, ben, c'est clair que c'est plus facile si on connaît les dynamiques, la passion et les émotions qui existent ici à Fribourg. Si tu arrives dans un terrain que tu connais déjà, un championnat que tu connais déjà, l'endroit que tu connais déjà, je pense que c'est un gros avantage parce que, bien entendu, à Fribourg, le poste de directeur sportif, c'est quand même un poste qui est quand même assez compliqué à œuvrer. Et puis, ben, tous ces éléments-là, ben, justement, ça me donne un peu un avantage, une plus-value, justement, pour accéder à ce poste.
Mais pourquoi tu dis qu'il est plus compliqué à Fribourg, peut-être, qu'ailleurs? Voilà, parce qu'il y a de la passion derrière et les gens jugent très vite un choix de joueur, c'est ça, ou il y a d'autres raisons?
Bah, disons, en premier lieu, c'est à cause de vous, les journalistes de la Liberté. Mais...
et voilà.
Il y a les journalistes ailleurs, non?
Et puis, non, je pense qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'émotions. Fribourg est une ville de hockey. Et puis, lorsque Fribourg gagne, ben, effectivement, le peuple fribourgeois est heureux et content. Et puis, quand le Fribourg-Gotteron ne gagne pas, ben effectivement, même s'il fait soleil à l'extérieur, mais c'est nuageux. Alors, je pense que c'est important, justement, d'avoir une certaine expérience pour pouvoir gérer, justement, ces éventuels moments, car c'est important, justement, de garder, justement, son calme et puis tout ce qui va avec, justement, pour prendre les bonnes décisions et surtout... emmener les bonnes solutions.
Ce poste de directeur sportif, Gotteron a décidé de séparer cette double casquette que l'entraîneur Christian Dubé avait. Toi, tu as porté cette double casquette. On voyait quand même que Gotteron est un peu l'exception en Suisse. C'est important d'avoir deux personnes différentes à ces postes-là, d'après toi?
Bah, disons que je veux dire, ça fait plaisir que tu me poses la question parce que on avait eu une entrevue justement croisée avec votre collègue Pierre Chouvet une fois quand j'étais justement entraîneur à Lugano et puis Christian était entraîneur à Fribourg et puis on m'avait posé les mêmes questions aux deux justement sur cette double casquette. Et puis une fois que Pierre avait raccroché, ben on était restés en ligne, moi et Christian, justement. Et puis moi, je l'avais justement conseillé un peu. J'ai dit, tu verras, rendu à la troisième saison, c'est difficile. Parce que, ben voilà, les bons coups, c'est grâce à toi, mais les mauvais coups, c'est tout est ta faute, quoi. Mm-hmm. Donc, à quelque part, je veux dire, moi, je comprends bien la position de Christian Dubé aujourd'hui parce que j'ai effectivement vécu ça à ma quatrième année que... Effectivement, tu viens comme dans un impasse. Tu peux pas t'en sortir parce que, je veux dire, s'il y a trop d'eau sur la glace, c'est pas à cause du le gars qui fait la resurfaceuse entre les périodes, mais c'est pratiquement
aussi... T'avais pris trop de pouvoir.
Exactement. Ouais. Ça devient un peu de ta faute. Donc, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, en 2023, c'est difficile justement de faire les deux rôles, les deux casquettes. Dans les deux premières années, c'est très bien parce que tu peux justement identifier rapidement au vestiaire qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui joue pas. Tu peux faire rapidement un turnover de joueurs justement pour changer, pour améliorer l'équipe rapidement. Mais rendu à ta troisième saison, parce que bien entendu, plus ou moins les joueurs obtiennent des contrats de 1 an, 2 ans, etc. Donc à ta troisième saison, tu deviens un peu comme dans une sorte de conflit d'intérêts. Parce que tu as des joueurs éventuellement que tu dois aviser vers le mois de décembre, janvier, qui ne seront pas de retour. Mais au moment, alors là, je veux dire, le joueur sort de ton bureau avec la nouvelle qu'il ne sera pas de retour. Mais 5 minutes plus tard, tu rentres dans le vestiaire pour lui dire, là maintenant, il faudrait que tu m'en donnes un petit peu plus parce que là, je ne suis pas content de tes prestations. Alors le joueur n'a pas toujours l'humeur à se faire dire, ben, effectivement, il faut que j'en donne un peu plus. Donc séparer les deux rôles, je crois que c'est... c'est une bonne chose. Surtout en 2023, il y a énormément à faire entre l'évaluation des joueurs, le développement des joueurs, le scouting, les relations avec les agents et tout qu'est-ce qui englobe le boulot du directeur sportif. C'est énorme. Et puis, ben voilà, quand on est coach, notre dernier directeur sportif aussi, d'ailleurs, je veux dire, lorsqu'on va au lit le soir, ben, la dernière pensée, c'est pour l'équipe. Le lendemain matin, la première pensée au réveil, mais c'est pour l'équipe. J'espère que ma femme n'écoute pas le podcast en ce moment.
Elle doit être au courant.
Mais,
elle doit être heureuse actuellement, vu que tu n'as pas d'équipe.
Oui, effectivement, ouais, c'est une bonne observation. Mais effectivement, je veux dire, c'est très prenant. Et le fait, justement, que les deux rôles soient dissociés. Et puis, c'est clair, ensuite, le directeur sportif, je veux dire, peut être un épaule pour le coaching staff. Si le directeur sportif a une certaine expérience, il peut justement se mettre au service du coaching staff parce qu'il y a des choses qu'il voit, lui, que peut-être eux ne voient pas, comme Patricia avant a mentionné le power play. Donc, il peut être d'une aide utile justement pour trouver certaines solutions pour aider également le personnel d'entraîneur.
Serge, tu ne penses pas que Gauthieron, justement, a évolué, est en train de grandir un petit peu? Tu parlais avant du noyau, de l'esprit de l'équipe par rapport à Gauthieron, par rapport au club. Ça existe toujours, mais à l'époque, Gauthieron, c'était peut-être la deux chevaux face au Ferrari, si je peux me permettre les marques, toutes, on en avait parlé. Et puis maintenant, ben, c'est quand même. Gauthieron fait partie des gros calibres de la Ligue par rapport à rien que son budget, sa patinoire. Et l'engouement. Donc, forcément, il faut se diriger à vers des changements.
Non, tout à fait. Disons que la patinoire a amené beaucoup ici à Fribourg. Je pense que je me souviens une fois, j'étais en train de déjeuner au championnat du monde, puis je déjeunais avec le fameux Scotty Bowman, comme le fameux entraîneur. Et puis lui me disait, ben voilà, aujourd'hui, si tu veux avoir du succès, si tu veux développer ton club, ton organisation, tu as absolument besoin d'une bonne infrastructure. Sinon, tu peux pas devenir attractif comme équipe. Donc, Fribourg maintenant a ça. Et puis, c'est tant mieux.
Tu l'as évoqué avant. Je voulais te demander de détailler encore un petit peu la relation qu'a un directeur sportif avec le coaching staff, avec l'entraîneur. On a des fois l'impression que c'est une sorte de contre-pouvoir et puis qu'ils vont pas travailler ensemble. Puis en même temps, toi, tu te dis, ah, mais s'il y a un problème sur un power play, il peut donner son avis. Puis en même temps, on se dit, bah, il crée l'équipe pour l'entraîneur. Donc, quelle est un peu cette relation, toi, qui as connu de nombreux clubs, qui a eu ces différentes casquettes? Comment tu vois la collaboration entre directeur sportif et entraîneur?
Bon, la collaboration, je veux dire, c'est un peu comme tu fais un peu partie du staff, quoi. Je veux dire, si l'entraîneur, justement, a ses relations avec les assistants coach, il va aussi avoir une relation dans une autre dimension avec le directeur sportif, mais sûrement qui peut l'aider grandement, car... J'ose espérer que le directeur sportif a une certaine expérience aussi pour occuper ce poste-là, justement pour avoir cette collaboration recherchée entre le coach et le directeur sportif.
Mais on s'attend aussi qu'un directeur sportif peut-être recadre ou bien ait un peu ce rôle de supérieur hiérarchique à l'entraîneur. C'est lui qui... L'entraîneur doit rendre des comptes un peu au directeur sportif aussi, non? Et c'était peut-être le problème de la double casquette, c'est que finalement, il œuvre tout seul.
Exactement. Disons que c'est clair que le directeur sportif, lui, bâtit l'équipe. Je pense aussi à un grand rôle du directeur sportif. Je veux dire, il doit s'assurer aussi que la culture de l'organisation est bien présente. Justement, cette fameuse culture de la gang, de l'excellence, et puis etc. Je pense qu'il doit vraiment contrôler à ce que tous les paramètres, justement, jouent. Et puis ensuite, l'entraîneur, bien entendu, je veux dire, son job, c'est d'obtenir le maximum de chaque joueur. Je veux dire, c'est le boulot de l'entraîneur. Par contre, s'il y a un joueur qui va un peu moins bien, justement, le directeur sportif, pour moi, peut intervenir dans ce genre de situation-là en prenant justement ce joueur-là à côté, à discuter avec lui justement pour savoir pourquoi que ça fonctionne moins bien, et puis etc. et tout. Donc, je pense que c'est important que le directeur sportif sache pourquoi que ça fonctionne bien pour un joueur et également pourquoi que ça fonctionne bien pour un autre joueur. Moi, je donne juste un exemple comme ça. Je pense que ce serait agréable justement que trois joueurs par mois, par exemple, défilent dans le bureau du directeur sportif à discuter justement les choses qui vont bien, moins bien. Quand les joueurs vont pas bien, et puis le contraire, je veux dire, le mois suivant, comme ça, tu gardes une certaine relation. Et puis, je pense que ça peut être très bénéfique, justement, pour le succès de l'équipe.
Quand tu étais directeur sportif à Gautheron, on se souvient notamment que tu as fait venir Sandy Jeannard, Christian Dubé, Simon Gamache, Pavel Reza.
Christophe Alluet,
voilà. Mm. Tu peux en rajouter d'autres. Il y a eu des jolis coups. Comment on réussit ça? Quelle était un peu ta priorité à l'époque? Jeannin, c'était un peu le grand joueur suisse que Gautheron n'avait pas. C'était pour aider Gautheron à franchir un palier. Dubé aussi, c'était important d'avoir un peu une colonne vertébrale dans l'équipe. Ça, c'est quelque chose que tu rechercherais toujours comme directeur sportif?
Oui, bien entendu. Moi, j'ai toujours eu par principe justement de bâtir une ligne de centre solide. Et puis... Lorsqu'on a pu justement mettre Sandy sous contrat, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû passer quelques heures dans sa cuisine à Lugano pour...
connaissais bien Lugano, ça.
Pour en discuter avec lui, pour justement mettre en avant le projet qu'on voulait justement le mettre au centre de notre futur projet. Et puis, à la fin, justement, il a opté pour nous, malgré que je pense qu'il y avait quand même le trois quarts des équipes dans la Ligue qui désiraient signer Sandy Jeannin. Donc, effectivement, je pense qu'il a cru en moi, justement, en venant à Fribourg. Puis, je veux dire, aujourd'hui, tout est une question, je veux dire, de relations humaines. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de hockey moderne, etc. et tout. Mais qu'est-ce qui a changé, justement, dans le hockey? Si on regarde les matchs d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus rapide, mais je veux dire, si on regarde les structures en tant que telles, il n'y a pas eu un changement incroyable, je veux dire, des structures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est que, les joueurs sont d'une autre génération, la communication est très importante, et puis je pense que ces relations-là, justement, avec les jeunes d'aujourd'hui, justement, sont très importantes parce que c'est la relation humaine qui est devenue encore plus importante qu'à l'époque.
Ça, tu parles pour les joueurs présents dans l'équipe, pour les faire venir, c'est quand même le porte-monnaie à la fin qui décide ou pas, ou moins, ou ça dépend des joueurs.
Dépendamment dans quelle situation on travaille, si on a un gros porte-monnaie, effectivement, on peut parler d'argent, mais si on a un petit peu moins de porte-monnaie, bien entendu, il faut mettre d'autres éléments en avant, il faut trouver les arguments justement qui vont convaincre ces genres de joueurs, Jeannin, Huet, Rosa, Dubé, de venir à Fribourg et puis qui vont être heureux. Et puis, concernant l'argent, je pense que les bons directeurs sportifs, c'est les directeurs sportifs qui ont 5 francs dans leur poche, mais ils doivent en dépenser 10.
Ça veut dire que tu as réussi ces jolis coups beaucoup dans le dialogue et dans en essayant de convaincre ces joueurs, de leur proposer un projet, du temps de jeu, des responsabilités. Tu n'avais pas, pour Jeannin ou Dubé, la meilleure offre?
La meilleure offre, je l'ignore parce que, bien entendu, j'ai pas vu sur papier les offres des autres clubs. Mais effectivement, je veux dire, j'avais mis d'autres arguments en avant qui ont facilité justement le passage de ces joueurs à Gautheron. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est primordial, je veux dire, le bien-être des joueurs. Et puis, effectivement, ça s'est passé ainsi.
Bon, ils doivent être bien à Fribourg, parce que Jeannin est toujours là, Rosa est de nouveau là, Dubé est toujours là.
Effectivement, donc j'avais raison de les faire venir.
On l'a dit, tu étais là au début des années 2000, de nouveau de 2006 à 2011. Tu as évidemment une très riche expérience. Après, on peut se demander si c'est une bonne idée de se remettre avec un de ses ex. Une troisième fois, comment tu convaincrais ou comment... Enfin, tu disais, voilà, c'est pas lié, c'est une autre époque, mais en même temps, c'est aussi peut-être un désaveu pour les dirigeants parce qu'ils disent, bon, en 2011, on le voulait plus parce qu'on disait, on trouvera mieux, puis en 2023, on lui reproposerait le poste. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait jouer en ta défaveur?
Bon, c'est une excellente question. Je pense que, je veux dire, de 2011 à 2023, si j'étais resté assis chez moi à rien faire, effectivement, je pourrais me poser la question. Mais je crois que depuis 2011, justement, j'ai travaillé dans d'autres clubs, j'ai travaillé dans d'autres situations, j'ai eu plusieurs expériences, et puis, etc. Donc, je veux dire, je suis là en 2023, je veux dire, avec un carnet d'adresses et puis des compétences encore, je dirais, plus grande qu'en 2011 à mon dernier passage. Donc, j'ai vu que Dido était revenu à Fribourg cette saison. Donc,
c'était une bonne idée à première vue.
Apparemment, c'est une bonne idée à première vue. Je vois un peu dans le milieu des affaires et aussi à l'UBS, Hermodti également, qu'on est allé rechercher parce qu'on avait un gros challenge devant nous. Donc, je pense que ce qui est important là-dedans, qu'est-ce qu'il faut avoir comme vision des choses, c'est surtout regarder justement qu'est-ce que l'individu a fait depuis son dernier passage, parce qu'il y a toujours un truc qui est... Il y a toujours un truc dans un club sportif qui est numéro un, c'est le succès du club et non les égos.
Bon, Dido, c'est une deuxième fois à Fribourg de retour. Cadieux, Paul-André a aussi fait deux passages, toi aussi. Ça serait une troisième, ça serait une première quand même.
Comme on dit souvent, il y a toujours une première dans la vie.
tu parlais de ce que tu as fait depuis 2011, donc il y a eu beaucoup d'expériences de coach. Entraîneur, pour toi, c'est fini maintenant?
Écoute, je pense que quand tu as plus ou moins coaché 1000 matchs dans une carrière, je crois que tu es coach pour la vie. Et
mais ce n'est pas ce que tu recherches maintenant, c'est ça que je veux dire. Tu postules pas directement.
Je ne suis pas là en train de cogner aux portes pour coacher. Et puis si j'étais directeur sportif d'un club, je ne voudrais pas non plus coacher. Ça, c'est assez clair dans ma tête. Et puis, les dernières années, ben, j'ai vécu d'autres expériences, justement, dans le scouting, dans l'évaluation des joueurs, dans l'analytique, et puis, etc., qui m'amène aussi à avoir développé aussi ce côté-là de directeur sportif, peut-être plus affûté de qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans le championnat suisse, quoi.
On va rentrer dans les détails par rapport à ça, ce sur quoi tu as travaillé ces dernières années, peut-être juste en termes de souvenirs d'entraîneur. Qu'est-ce que tu retiens? Tu disais plus de 1000 matchs, je ne vais pas te demander de les passer en revue, mais est-ce qu'il y en a certains qui te sautent aux yeux ou des moments forts?
Bon, c'est clair qu'il y a énormément de... Il y a énormément de beaux moments dans toutes ces années. Je crois que, passage à Fribourg, toute l'euphorie qu'il y a eu dans les années qu'on est allé en demi-finale, à un pas de la finale, l'équipe que j'ai montée, qui a joué en finale également, les pièces du puzzle que j'ai assemblées. Pour moi, c'est énorme. Et puis, il y a eu le titre également avec Lugano quand j'ai commencé à coacher. Même avant, j'ai eu même le titre avec les jeunes dans les juniors élites. Donc, c'est beaucoup de souvenirs. Mais qu'est-ce que à part tous les souvenirs, les victoires, et puis, etc., je pense qu'est-ce qui est important, c'est un peu les relations que j'ai pu tisser avec tout le monde dans le milieu du hockey qui te laisse des jolis souvenirs.
Là, tu parles de dirigeants, tu parles de coaching staff, de joueurs. Donne-nous quelques noms des personnes qui t'ont marqué ou avec qui tu es resté ami ou en contact.
Ben, ça fait toujours du bien, je veux dire, quand il y en a un que ça fait 3-4 ans que tu n'as pas entendu, puis là, tout d'un coup, il te téléphone et puis il te dit c'est comme une fois par année, il y a toujours Sean Hines qui me téléphone et puis il m'appelle toujours Poids Léger. Parce que lui, il est énorme, quoi. Et puis, comment ça va? Quand est-ce que tu reprends? Et puis, etc. et tout. Là, je regarde, je voudrais t'envoyer mon fils. Alors, tu sais, je veux dire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Puis bon, toujours un peu des gars gauche à droite que je croise, et puis etc. Donc, c'est bonheur.
Des joueurs qui t'ont marqué, moins peut-être humainement, mais aussi que tu as eu des talents ou peut-être des joueurs que t'as pas pu, dont tu n'as pas pu faire façon et qui tu te dis, ouais, voilà, peut-être que lui, j'aurais pu l'appréhender différemment. Enfin, comme ça, est-ce que tu as dans ta longue carrière des joueurs qui t'ont marqué?
Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Il y en a plusieurs. Bon, il y a toujours des gars qui... Je pense un gars qui était assez spécial. Je me souviens aussi de Sébastien Caron à Fribourg. C'était pas un gars qui était facile à comprendre et puis à diriger également. Je pense aussi à la triplette plus Bikoff-Spunger. C'était des grandes années de succès. Et puis, bon, je peux en nommer énormément, mais je veux dire, en ce moment, c'est un peu les deux épisodes que j'ai vécu à Fribourg qui me viennent en tête. J'ai beaucoup de plaisir avec ma dernière expérience à Lugano. On a fini deuxième au classement dans une équipe qui n'était pas du tout prévue de finir à cette position-là, avec 92 points au classement. Donc, c'était... On avait un joli groupe également pour emmener ça justement jusqu'en deuxième position.
Il y avait Seba Bonfils qui justement demandait tes meilleurs souvenirs à Gautheron, donc tu lui as répondu indirectement. Kémy Kratinger, lui, demande ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait une carrière dans le hockey. Tu as déjà imaginé.
Ouais, peut-être un peu le droit ou le... Le droit ou la finance, éventuellement.
OK. on parlait de ces dernières années. Donc, nous, la dernière trace qu'on a de toi dans une équipe, c'est Panther d'Augsbourg, en Allemagne. Depuis, tu l'as dit, tu n'es pas resté assis dans ton canapé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as parlé avant qu'on allume et qu'on ouvre les micros des Canadiens de Montréal avec qui tu as travaillé un peu ces derniers temps. Comment tu as occupé tes longs mois?
Ouais, disons que la saison passée, j'avais une collaboration avec le Canadien de Montréal. On regardait justement tous les agents libres en Europe pour dresser, bien entendu, leur évaluation, le caractère des joueurs, un peu le côté psychologique également. On récupérait les... parce qu'eux étaient intéressés justement à que moi, je me joigne à eux comme scout dans le futur. Donc, on a commencé cette collaboration-là. Donc, j'ai vu un peu tous ces joueurs qui sont arrivés cette saison dans le championnat suisse. J'ai pu mettre ça dans mon ordinateur, je veux dire, avec toutes les composantes d'analyse, justement, propres à chaque joueur. Donc, ça, effectivement, pour moi, c'était une bonne expérience, justement, après mon passage en Allemagne, à Augsbourg.
C'est toi qui as mis des notes à David Reinbacher?
Bah, disons que j'ai eu beaucoup de téléphones pour Ryan Bacher, justement, de Kloten. Je crois que Montréal s'est déplacé souvent pour le voir jouer. Et puis, on a eu quelques soupers ensemble, justement, pour discuter, justement, de ce joueur, s'il pouvait, justement, se hisser jusqu'au cinquième rang du dernier draft pour un joueur qui joue dans notre championnat. Ça veut dire que c'est très positif.
Il y a de nouveau des pépites cette année?
Ça, c'est une bonne question. L'échantillon maintenant est encore petit, hein, la saison a à peine commencé. Donc, on va voir au cours des prochains matchs, mais il y a sûrement quelques joueurs intéressants encore cette saison.
On parlait de David Reinbacher, qui est évidemment un talent presque hors norme quand on parle de directeur sportif en Suisse. On a rarement ce genre de joueur qu'on peut faire venir, ou alors on l'a dans son propre club. Comment tu arrives à lister un peu les qualités des joueurs? Comment tu procédais? Parce que voilà, il y a beaucoup de noms, beaucoup d'envie, mais après, l'envie ne suffit pas, le talent ne suffit pas non plus, il faut du caractère, et puis il faut voir aussi l'impact un peu du joueur sur le jeu. Je pense que ça intéresse les franchises d'Amérique du Nord, ça.
Oui, effectivement. Je veux dire, de mon côté, depuis 2019 aussi, j'ai développé un logiciel, justement, dans l'évaluation des joueurs qui amène, justement, à identifier et également à évaluer l'impact du joueur dans une victoire. Alors, et puis ce logiciel-là, justement, me permet... pour des joueurs suisses, également les étrangers. Et puis, on recule justement jusqu'à 3 saisons derrière. Donc, on a pratiquement globalement les 3 dernières années de l'impact du joueur sur une victoire. Et puis, à côté, on a le percentile également du joueur dans le championnat. Qu'est-ce qu'il représente sur 100%? Et qu'est-ce qui est très agréable là-dedans, c'est que si on est directeur sportif et puis on veut... On a 2-3 joueurs en tête, pour exemple, le 3e bloc à l'aile gauche. Alors, bien entendu, bien, on va sortir justement le comparatif de ces 3 joueurs. Donc, au-delà de, je veux dire, la capacité d'analyse du joueur, bien là, on a un complément, puis une analyse, je veux dire, un peu plus objective qui peut justement nous aider à prendre des bonnes décisions et puis à aller un peu plus en profondeur, je dirais, dans l'évaluation des joueurs.
Là, tu vas aller en profondeur grâce à Alex Froidevaux qui aimerait savoir que si tu es le nouveau GM, quel joueur suisse tu re-signes en premier ou peut-être même tu signes. Ça veut dire, est-ce que tu arrives à nous donner un joueur que tu aimes bien et que tu verrais bien à Fribourg?
Il faut choisir le bon pour avoir des supporters. Hein?
Oui, effectivement. Disons qu'il y a plusieurs bons joueurs, mais...
Je ne sais pas à quel point tu peux aussi dévoiler peut-être des joueurs que nous, on ne voit pas performer, par exemple, mais qui sont importants pour leur équipe, parce que, comme je le disais, ça va au-delà des points. Évidemment qu'il y a un joueur qui score 50 ou 60 points, ça doit être un bon joueur. Mais...
Bon, déjà, dans un premier temps, je veux dire, si j'arrive, je vais quand même faire un peu une évaluation de la maison, quoi, voir un peu qu'est-ce que les besoins et les trucs. Souvent, on a des joueurs qu'on rêve de signer, mais on arrive à les signer dans 2 ou 3 ans. Des fois, c'est des projets à long terme. Mais effectivement, mettre le doigt aujourd'hui sur un joueur après 6 matchs qui viendrait à Fribourg, je veux dire, c'est un peu rapide comme... Je n'ai pas le poste. 2, je voudrais un petit peu prendre le temps d'évaluer la maison. Et puis 3, j'ai déjà quelques noms en tête, mais... C'est un peu tôt pour les dévoiler.
Bon, alors, tu me connais, moi j'insiste toujours. Alors, c'est pas en lien avec Fribourg, mais dis-nous un joueur du championnat de Suisse peut-être qui est important pour son équipe ou qui performe beaucoup et auquel on pense pas forcément. Quoi. Pas un top scorer, mais peut-être quelqu'un que t'aimes bien ou que tu vois peut-être qu'il partira jamais de cette équipe, mais tu te dis, ouais, lui il est précieux.
Bon, en ce moment, si je regarde un peu mon système d'analyse qui a été monté sur l'impact justement dans les victoires, il y a un joueur qui se retrouve très très haut dans la hiérarchie justement du championnat, c'est Calvin Turkauf à Lugano. Mm-hmm. Parce que c'est un joueur, je veux dire, qui amène également beaucoup de solidité défensivement. Il amène également sa part de succès offensivement. Également, c'est un joueur qui ne craint pas le jeu robuste, qui est doté d'un assez bon physique, bon pourcentage également sur les engagements. Donc, si je fais un peu la liste...
Il coche beaucoup de cases, quoi.
Il coche beaucoup de cases comme éventuel joueur à recommander.
Donc, finalement, c'est le joueur que tous les clubs vont vouloir engager.
Il y a de très bonnes chances, ouais.
Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch.
Au-delà de systèmes qui analysent, qui prend en compte beaucoup d'aspects statistiques, hein, aussi pour sortir tous ces chiffres, je sais que tu es assez inquiet ou en tout cas tu t'es penché passablement sur les jeunes joueurs suisses. C'est difficile pour eux de percer. On voit qu'il y a de temps en temps un talent, une pépite, mais le saut est toujours plus dur. En plus, depuis l'arrivée des 6 étrangers, on voit que c'est encore plus compliqué pour les jeunes. Cet aspect-là, il t'inquiète un peu quand même.
Ben, d'un côté, il m'inquiète. D'un autre côté, je pense qu'il faut un petit peu revoir notre système de développement en ce moment parce que si on regarde les nouveaux joueurs qui sont entrés en ce moment dans le championnat cette saison, pratiquement, ils étaient tous à l'étranger la saison passée. Donc, ça nous donne un peu quelques indications, même, je veux dire, moi, ma vision des choses au niveau du développement des joueurs, je pense que c'est important de créer des, construire des habitudes de travail et des comportements de jeu pour devenir un joueur de Ligue nationale. En ce moment, si je regarde qu'est-ce qui se fait pratiquement dans tous les clubs, aussitôt qu'on a un peu un joueur à la porte d'un club de National League, on lui dit, bah, écoute, va en Swiss League ou retourne dans les juniors élites, va dominer et quand tu seras prêt, on va te faire jouer. Malheureusement, je veux dire, ça prendrait plus que ça, justement, dans le développement des joueurs. Le développement des joueurs, je veux dire, il faut créer, à quelque sorte, à chaque joueur, un tableau de bord. Pour créer un tableau de bord, dans un premier temps, on doit évaluer le joueur, faire une analyse biomécanique du joueur, lui trouver une identité, et puis par la suite, mettre également son dossier analytique avec lui au niveau des statistiques avancées pour les comportements de jeu. Et puis, à partir de ça, on va développer notre joueur spécifiquement pour l'aider le mieux possible à faire une transition sur la National League. On ne sait pas seulement « va jouer » et puis on te retéléphonera. Ça prend vraiment, je veux dire, un pas énorme en avant justement dans le développement des joueurs. Et puis... suite à ça, ben, on parlait tout à l'heure qu'il y a énormément de joueurs qui jouent à l'étranger, mais c'est la même chose. Le COVID nous a amenés à travailler avec Skype, avec Teams, avec Zoom. Donc, c'est la même chose. On signe un joueur justement à l'étranger au mois de janvier, par exemple. Ben, à ce moment-là, c'est la même chose. On doit créer son tableau de bord. On doit l'identifier, son identité, lorsqu'il va venir chez nous la saison prochaine. On doit mettre tout le système d'analytique sur ses matchs afin d'analyser comment il se comporte et puis faire les corrections dans son comportement de jeu. Et puis dans son tableau de bord, on doit lui donner également des exercices qu'il peut travailler à chaque jour sur la glace et puis afin qu'il soit prêt. Donc quand le joueur traverse, il n'arrive pas dans l'inconnu dans son club de National League ici en Suisse la saison suivante, mais on a eu contact avec lui, on l'a suivi durant tous ces derniers mois. Donc, lorsqu'il traverse et puis il s'en vient là, il est fin prêt. C'est ça que j'appelle la transition vers la National League. On veut que le joueur soit un joueur de National League qui joue un match de 60 minutes de National League, mais même dans le niveau inférieur. Donc ça prend un suivi, ça prend une individualisation justement du développement du joueur. Et puis ça, en ce moment, on travaille très peu de cette façon-là en Suisse.
Ça veut dire que si tu es GM à Gotteron, le premier transfert que tu fais, en fait, c'est d'engager un ou deux coachs qui seront un peu des coachs personnels ou personnalisés qui s'occupent du travail individuel. Parce que ça, c'est visiblement ce qui manque dans ton analyse. C'est qu'il faut faire plus... travailler, en tout cas de manière plus spécifique, ces joueurs qui sont talentueux, mais pour les aider à faire la transition, il faut vraiment les encadrer. Ça, c'est un coach de National League, ton programme, entre guillemets, il n'a pas le temps de le mettre en place ou c'est difficile, il a déjà beaucoup à faire. Donc, c'est quoi, ses assistants ou c'est d'autres personnes qui doivent prendre en charge?
Mais disons que l'idéal, c'est de regrouper les trois secteurs, le développement, l'analytique et le coaching staff. Donc, le coaching staff, effectivement, peut avoir un rôle à jouer dans ce tableau de bord à développer individuellement pour tous les joueurs. Et puis ça ne concerne pas seulement le joueur qui est junior, parce que le joueur qui arrive en première équipe, il a 21, 22 ans, on espère qu'il va devenir un meilleur joueur qu'il est en ce moment, il doit progresser. Donc son identité, son développement, ses forces, ses faiblesses, et puis tout son comportement de jeu doit continuer à se développer pour qu'il soit un meilleur joueur dans les prochaines années. On ne veut pas que le joueur stagne après une année ou deux parce qu'il a atteint la National League.
Ça, tu as l'impression, là je refais appel à ta mémoire, mais il y a quelques années en arrière, ça ne se faisait pas du tout et ça ne se fait encore pas beaucoup, ce suivi avec des objectifs très ciblés sur les joueurs. Typiquement, puisque c'est un podcast en lien avec Gotteron, prenons alors Bignas, c'est un jeune, mais peut-être un Sandro Schmid ou même des plus âgés, on ne leur dit pas, ben voilà un peu tes chiffres, tes résultats, tes statistiques, voilà ce qu'on aimerait que tu développes, voilà où tu en es après X mois et voilà où tu en es à la fin de la championnat. Ça n'existe pas pour l'instant, ça.
Bon, disons que je suis pas dans la patinoire tous les jours et puis voir comment que on travaille en ce moment. Mais disons que moi, c'est un développement des joueurs justement que j'aimerais justement apporter, qui amènerait justement quelque chose sûrement, je veux dire, amélioré à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui généralement dans la Ligue.
Mais ça se fait beaucoup plus ou ça se fait systématiquement en Amérique du Nord, alors peut-être en NHL, tu vas me dire oui, mais, ouais. Mais même dans d'autres pays ou en Suède, en Finlande, peut-être c'est des choses qui existent déjà ou tu as collaboré avec ces pays?
Disons que ça, ouais, j'ai travaillé beaucoup avec la Suède, mais on commence justement, on est au début seulement là. On est au début seulement du regroupement de tous ces, ces éléments dans le développement des joueurs.
Intéressant, hein. Il y a de quoi faire. En plus, il y a beaucoup à développer. Ces jeunes joueurs, on disait, tu le disais toi-même, le constat, ben, c'est qu'ils viennent ou ils partent tous à un moment donné. Ça veut aussi dire que les ligues juniors en Suisse, les championnats novices, juniors, élites, U20 maintenant, c'est pas assez, ils sont pas assez formateurs, ils sont pas assez... pas assez bon pour leur permettre de franchir les paliers. À un moment donné, il y a, l'écart est trop grand?
Ça, c'est une bonne question, ça. C'est, disons que le fait d'aller jouer à l'étranger va amener au joueur justement ce niveau de compétitivité que peut-être il ne va pas retrouver dans le championnat suisse. D'un autre côté, je pense qu'il y a un effort aussi à faire parce que les joueurs, normalement, on commence à parler à 15 ans, que le joueur doit un petit peu choisir son club, choisir un peu la filière également, qu'est-ce qu'il veut faire. Je crois que ce qui est important aussi, ce serait de créer justement cette filière sport-apprentissage et puis hockey sur glace pour que le joueur justement se projette dans un avenir professionnel, mais sans contradiction avec ses ambitions sportives. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de clubs, justement, qui ont énormément de sponsors pour faire un genre de porte ouverte, justement, et puis créer, justement, ce partenariat qui resserrerait encore plus les liens avec les sponsors et, en plus, au service des hockeyeurs étudiants afin qu'ils réussissent, justement, sans contrainte dans leur futur.
C'est quel aspect qui est le plus important pour toi, pour un jeune hockeyeur aujourd'hui? Il y en a sans doute qui nous écoutent, puisque les podcasts sont écoutés par les jeunes.
Ouais.
Et du coup, voilà, il n'y a pas de chemin tout tracé, il n'y a pas de vérité. Mais voilà, un jeune hockeyeur qui a 15 ans, qui est doué, quelles seront les étapes importantes? Qu'est-ce qui va fonctionner pour lui? Qu'est-ce qu'il doit faire attention?
Moi, je crois que le premier truc qui est très important, tu dois être amoureux du hockey sur glace. Je crois que la passion pour ton sport, c'est numéro un. Et puis après, ben, c'est pas vraiment qu'est-ce que tu es capable de faire, mais c'est surtout qu'est-ce que tu es prêt à faire. Comme on dit, celle-là, j'ai déjà sorti dans le vestiaire aussi, « That's not what you're capable to do, but that's what you're willing to do. » Et puis ça, c'est très important pour le jeune, je pense que c'est... qu'est-ce qui est en mesure justement de faire, d'accomplir, qui va être surtout important parce que l'attitude devient numéro un justement si tu veux faire un joueur de hockey professionnel. Parce que ton attitude justement, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Et puis à partir de ça justement, qu'est-ce que tu peux contrôler va t'amener à la constance. Je veux dire, souvent on a... quelques joueurs un petit peu qui commencent à être âgés, qui disent « Ah, ben moi, j'ai mon propre programme, j'ai pas besoin de faire ci, j'ai pas besoin de faire ça. » Et puis, on se rend compte justement que ses performances sont sur le déclin. Mais par contre, je veux dire, si ton hygiène de vie, ton attitude, tes qualités, tes habitudes de travail et puis que ça sont au top A1, ben là, ta constance et puis tu vas être voué à une longue carrière.
Cet aspect jeune qui rentre en National League, il est intéressant à Fribourg parce qu'on entend souvent ben voilà, que l'équipe est... Alors certains disent expérimentée, d'autres disent vieillissante. Et puis il y a ce besoin et cette envie quand même chez les supporters, chez les suiveurs, chez les fans, de voir un peu des nouveaux visages, de voir des Fribourgeois. Enfin, il y a des choses importantes à Fribourg, tu connais bien ça. Est-ce que c'est compatible avec du sport professionnel où il y a des enjeux économiques économique, où il y a ce besoin de résultats. En gros, est-ce que Fribourg, comme d'autres clubs de National League, devrait jouer avec beaucoup plus de jeunes, enfin plus de jeunes, pas beaucoup plus, mais 3, 4, 5 qu'on lance, ou finalement, s'il n'y en a qu'un, ben, il n'y en a qu'un. Et puis Fribourg, l'important, c'est qu'il y ait des résultats et qu'ils puissent batailler le plus loin possible en play-off.
Il y a un truc que j'ai appris justement dans l'hockey sur glace après toutes ces années, c'est que tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu entends? Tu dois tout faire. C'est-à-dire, tu dois gagner le championnat, tu dois jouer avec des jeunes, et puis tu dois dépenser le moins d'argent possible.
T'as bien compris ma question. Du coup, comment tu fais? Non, tu mets tes priorités.
Alors, c'est là que ton système de développement, il est important, parce que je veux dire, si tu amènes le plus de joueurs possible aux portes de la première équipe, tu vas pouvoir faire un renouvellement, et puis ton équipe ne sera pas vieillissante. Alors, quand tu as un bon système de développement, justement, tu amènes des dégâts, justement, de l'énergie fraîche, avec beaucoup d'appétit. Et puis, ça peut t'aider, justement. On parle que les clubs veulent gagner sur le long terme. Mais pour gagner sur le long terme, tu dois pouvoir te renouveler. Mmh. Et puis, effectivement, la filière, justement, des jeunes est très importante.
Patricia, on ne t'attend pas beaucoup.
Non, mais là, j'étais en train de réfléchir aux jeunes à Fribourg. Il y a Nicolet et Tert qui sont à Turgovie avec Loïc Gallet. Il y a Bignas qui est dans l'équipe de National League depuis le début de la saison. Streulé, qui vient d'ailleurs, qui est aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités, mais encore faut-il donner un peu de temps de glace aux jeunes. C'est ce qu'on voit aussi.
Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est sûr que le passage, justement, à la National League, c'est pas un passage qui est facile. Et puis, ça prend du temps. Les jeunes doivent travailler fort. C'est pas seulement une question d'opportunité. Je pense que le jeune doit un petit peu, lui, chercher son opportunité pour pouvoir faire sa place. C'est pas simplement, OK, ce soir, tu joues sur le quatrième bloc à droite, voici ta chance. Je crois que ça vient aussi beaucoup du jeune qui doit se créer sa propre opportunité justement pour forcer l'entraîneur justement à le garder dans la formation, parce que c'est toujours ça, hein, je veux dire, c'est forcer l'entraîneur à te faire jouer, et puis que ça soit jeune ou vieux, hein. Et puis rendu là, ben, ça doit fonctionner.
On a beaucoup parlé des jeunes, on a beaucoup parlé de Fribourg, maintenant de manière peu plus large pour finir. Alors évidemment, tu vas nous dire tout de suite dès que tu auras eu un entretien avec Gauthieron pour ce poste de directeur sportif, mais si tu l'as pas aussi, Fribourg décide de partir avec quelqu'un d'autre, comment tu vois, toi, ces prochains mois, ces prochaines saisons? Tu as encore envie de œuvrer dans le hockey sur glace, de travailler, de trouver un job de directeur sportif ou de conseiller ailleurs, en Suisse quand même, ou tu regardes l'étranger, enfin.
Moi, disons que ma priorité serait plutôt de rester en Suisse. Là, justement, cet été, j'ai refusé quelques offres de l'étranger parce que je crois que mon tour d'Europe est terminé maintenant. Je crois que je vais plutôt rester ici, centré sur, sur la Suisse. Alors, je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Il y a également, je veux dire, des grandes sociétés, justement, d'agents de joueurs qui m'ont contacté au cours de la dernière saison pour travailler avec eux, travailler pour eux. Alors, c'est éventuellement peut-être une option également. Disons que je me laisse les prochaines semaines, les prochains mois pour prendre une décision finale. Alors, bon, on verra. Disons qu'il y a... Il y a plusieurs plats sur le feu en ce moment, et puis on verra qu'est-ce que ça va donner.
On a aussi vu un entraîneur partir du hockey pour aller comme manager dans le foot. Ça pourrait te tenter aussi?
Comme on dit, toutes les portes sont ouvertes, mais il n'y a pas beaucoup de clubs de foot qui m'ont contacté dans les dernières semaines.
À ton âge, est-ce qu'on rêve encore? Est-ce que tu as... un projet ou une envie un peu, pas folle, mais quelque chose, tu te dis, ben voilà, j'aimerais bien réaliser cela dans les prochaines années?
Ben, c'est clair que je pense qu'à un moment donné, dans une carrière, je veux dire, c'est clair qu'aujourd'hui, je suis arrivé à Fribourg la première fois, j'avais 34 ans, j'étais plus jeune entraîneur de l'histoire du hockey suisse, et puis etc. Et tout. C'est peut-être pour ça que je suis encore là. Je suis arrivé tellement jeune que les années passent et puis je suis encore jeune, quoi. Mais non, là, j'aimerais beaucoup m'investir quand même dans le management d'une équipe. Je pense que j'ai beaucoup donné dans le coaching, j'ai beaucoup donné dans plusieurs domaines. Et puis, je crois que c'est là que je serai à mon meilleur. C'est pour ça que c'est pas seulement un rêve, mais c'est plutôt une réalité de, justement, mettre les pieds dans la bonne position, le poste mieux adapté où c'est que je pourrais aider une équipe du mieux de mes capacités.
Ça m'amène à la dernière question que j'ai failli oublier de Cyril Ease, qui n'est pas la plus facile parce qu'il dit « Dans l'hypothèse où Serge devenait directeur sportif, quelles caractéristiques le différencient de Dubé dans ce rôle ?» Alors, voilà, c'est un jeu de comparaison, mais les Fribourgeois ont vu comment Dubé fonctionnait comme directeur sportif avec des bons transferts et d'autres ratés, mais un peu comme tous les directeurs sportifs, hein, c'est difficile d'avoir du 100%. Tu as dévoilé certains aspects, voilà, cette colonne vertébrale qui est importante pour toi. Mais qu'est-ce que toi, tu ferais pour Fribourg un peu différemment peut-être que de ce qu'on voit maintenant?
Bon, c'est un peu difficile de comparer parce que je ne sais pas dans tous les détails comment lui...
Je t'ai dit que c'était la question la plus difficile.
Je ne sais pas comment lui se comporte à chaque jour. Et puis, je crois bien aussi que pour avoir fait justement ces deux casquettes-là, tu n'as pas non plus beaucoup de temps pour veiller à tous les grains, comme on dit. Et puis, moi, je pense, dans mon idée, je pense le truc qui serait primordial pour moi, justement, ce serait la cohésion, c'est-à-dire rassembler, justement, tous les paliers du club pour pouvoir, justement, naviguer dans la même direction. Alors, je pense que le côté rassembleur, pour moi, serait une priorité. Si jamais ça se concrétise.
Voilà, on terminera avec ce « si jamais ». Et l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Serge, d'avoir
merci
passé
François,
ce temps.
Merci, François. Merci, Patricia.
Compagnie.
Merci à
merci
tous.
Pam.
Merci. J'avais juste encore une question à Serge.
Ah, d'accord.
C'est ça la question la plus dure pour la fin.
Non, non. T'as été, sauf erreur, le premier entraîneur à avoir Julien Sprunger comme capitaine.
Je crois que oui.
T'as un souvenir de cette époque-là?
Oui, bien sûr. Je pense que Julien, bon, déjà, qu'est-ce qui m'a toujours fasciné chez Julien Sprunger, c'est sa capacité de marquer des goals. Je crois que déjà là, je veux dire, Julien est comme né et tombé au bon endroit, c'est-à-dire que dans le hockey suisse, une grande difficulté, c'est justement avoir des joueurs suisses qui soient capables de marquer des goals. Et justement, Julien, lui, est tombé dans le bon championnat, justement comme joueur suisse, parce qu'il a apporté vraiment une grosse lacune dans le hockey suisse. Et puis lui, ben justement, il a cette capacité justement de marquer des goals avec facilité. Je m'en souviens un entre autres en prolongation contre Marco Bührer à Berne dans la lucarne en haut du gant là. Je crois que le puck était resté coincé encore dans le filet. Puis là, je crois que toi, de la patinoire est proche de tomber. Là, je crois qu'on aurait dû commencer la construction de la BCF Arena avant le début du projet. Ouais.
Merci beaucoup, donc, Serge, pour toutes ces anecdotes.
Ça fait plaisir.
Tes explications, on verra les prochaines semaines et mois comment avance ce dossier. Fribourg-Gotteron est directeur sportif. Moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain déjà pour nos podcasts surprises. Hein. Comme vous le savez, il n'y a rien eu la semaine passée, mais c'était pour une bonne raison. Vous le découvrirez lundi et il y aura même un concours à la clé. Donc, soyez attentifs. D'ici là, bon week-end, bonne suite à toutes et à tous.
Bye bye,
bientôt,
ciao.
Pam. Salut Serge.
Ciao, au plaisir.
C'était Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.